Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Au Maroc, une jeune fille de 17 ans a raconté dans une vidéo qui a ému tout le pays son viol collectif par une quinzaine d'hommes de son village. Elle affirme avoir été séquestrée pendant près de 2 mois, violée et torturée. Une première audition de 12 suspects a eu lieu cette semaine. Cette affaire vient confirmer ce que l'on constate depuis plusieurs années au Maroc et dans certains pays voisins, une explosion sexuelle de pratiques incomplètes et palliatives, violences sexuelles et homophobes, incestes, zoophilie, prostitution informelle et virginité artificielle mensongère. Car les pratiques sexuelles sécularisées sont de plus en plus en conflit avec des normes sexuelles islamiques idéalisées mais irréalistes. La sexualité et ses dérives au royaume chérifien, c'est le thème de cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook et que vous pouvez podcaster sur notre application Pure Radio. Bonjour Abdessamad Dialmi.
Bonjour.
Sociologue, vous êtes également consultant en santé sexuelle et reproductive et l'auteur du livre « Transition sexuelle entre genre et islamisme ». C'est publié chez L'Harmattan. Vous êtes en ligne avec nous depuis Rabat au Maroc pour parler de ce sujet si délicat de la sexualité. Tout d'abord, y a-t-il une politique publique particulière au Maroc dans ce domaine avec notamment un programme éducatif ?
Pas vraiment, non. Cette notion d'éducation sexuelle est vraiment bannie, refusée de toutes parts depuis pas mal de temps. Bien sûr, tout le monde en ressent la nécessité, vu qu'il y a beaucoup d'IST, beaucoup d'infections VIH, vu qu'il y a beaucoup de grossesses involontaires, beaucoup de désordres, de chaos sexuel, une sexualité sauvage, je dirais. Mais bon, aucun gouvernement, aucun ministère n'a pu imposer une stratégie d'éducation sexuelle au sens propre du terme. Bon, il y a eu des choses un peu indirectes, par exemple un programme scolaire nommé éducation en matière de population, très limité, qui a suscité beaucoup de résistance, qui a été enseigné aussi dans les collèges, dans les lycées, mais dans des matières déjà qui sont là, arabe, histoire, géographie, sciences naturelles. Et là, vraiment, ça n'a pas vraiment été un grand succès. Les étudiants qui l'ont évalué se sont rendus compte que bon, l'impact est très faible.
Du coup, quelles sont les sources d'informations qui sont disponibles en matière de sexualité au Maroc ?
Principalement, maintenant, c'est l'Internet, principalement. Sur Internet, on peut avoir les informations. On peut aussi avoir des partenaires virtuels ou réels par la suite. Donc, c'est vraiment la source principale. C'est là où les gens peuvent se connecter sur un téléphone, sur un ordinateur, de manière discrète, sans être vu, sans être jugé. Et du coup, l'Internet, pour moi, reste la source principale.
Et dans les sociétés majoritairement musulmanes, comme le Maroc par exemple, est-il possible de séparer sexualité-plaisir de la sexualité centrée sur la procréation ?
Ben oui, pas seulement depuis maintenant. Si même on revient aux sources de l'islam, si on revient au prophète lui-même, il a admis la licéité du coït interrompu. Les conjoints qui n'ont pas envie d'avoir des enfants peuvent interrompre le coït. C'était la seule technique connue. Elle a été légitimée par le prophète. Et du coup, le plaisir est en soi un but légitime, légal pour l'islam, déjà. Et bien sûr, cela a duré pendant des siècles. Et encore faut-il que le mari demande à l'épouse de vouloir pratiquer cette interruption du coït pour des raisons contraceptives. Il faut qu'il y ait accord de l'épouse. Sinon, dans les temps contemporains, à partir des années 60, il y a eu un programme de contraception dans le cadre d'une politique là, vraiment très établie, très connue, qui a donné beaucoup de résultats. On est passé de 7 enfants par femme en moyenne en 1960 à 2,2 en 2014. C'est vraiment énorme comme progrès. Et du coup, le fait que les femmes utilisent des contraceptifs modernes a permis aux gens de dissocier de manière très très pratique entre sexualité et procréation. Et bien entendu, il y a des jeunes femmes non mariées qui n'ont pas en principe le droit d'utiliser une contraception, mais ils le font de manière clandestine, illégale, pour éviter les grossesses involontaires. Bien entendu, toutes ne réussissent pas à avoir une contraception sûre. Et du coup, beaucoup de jeunes filles tombent enceintes et puis parfois elles pensent à se faire avorter de manière clandestine. Certaines ne peuvent pas, certaines choisissent de garder, et là, beaucoup de problèmes commencent justement à cause de ça. Mais le plaisir est nettement dissocié de la procréation, que ce soit au niveau conjugal ou au niveau, bien sûr, non conjugal.
Mais pour les femmes, revendiquer cette sexualité plaisir, est-ce que ça implique un recul du patriarcat? Est-ce que, grosso modo, ça fait peur aux hommes?
Inconsciemment peut-être, c'est-à-dire le fait que les femmes soient plus conscientes de leurs droits sexuels, de leurs droits au plaisir, bien sûr ça fait un peu peur aux hommes. Alors dans une enquête que j'ai faite en 2000 déjà, les hommes disaient que les femmes ont des désirs très forts, des désirs insatiables, il faut prendre tout le temps des aphrodisiaques pour pouvoir répondre à cette demande envahissante de la femme. Les femmes elles-mêmes, elles n'osent vraiment pas afficher leur désir, l'assumer, parce que la femme qui ose demander le plaisir est mal vu, elle est perçue comme étant une mauvaise femme, une femme vicieuse, une femme perverse. Et du coup, oui, il y a une demande, mais elle n'est pas dite, elle n'est pas exprimée de manière claire. C'est des sous-entendus, et puis on dirait même qu'il y a... Mais enfin, il faut dire aussi que sociologiquement, il faut distinguer entre les jeunes femmes modernes, urbaines, diplômées, qui ont leur petite amie, qui peuvent bien sûr assumer ça de manière totale et franche, et aussi des femmes plus traditionnelles, plus réservées, plus conservatrices. Et là, bien sûr, c'est du non-dit, c'est vraiment du gestuel. Elles expriment ce désir, mais bon, rares sont les femmes qui partent à cause de ça. La loi marocaine et la loi islamique ont toujours donné à la femme non satisfaite sexuellement de demander le divorce. Mais rares sont ceux qui le faisaient. Maintenant, c'est le plus courant. Maintenant, les femmes peuvent le faire, partir parce que non satisfaites sexuellement, elles peuvent partir sans le dire.
La sexualité préconjugale ou hors mariage, est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est vécu au Maroc comme un danger ou plutôt comme une libération de la femme?
Un danger, non. Un danger seulement dans le sens où, bien sûr, ça dépend jusqu'à quel degré cette sexualité est vécue. Bien sûr, elle ne peut pas être affichée publiquement. Cela va de soi. Donc, c'est vécu de manière discrète, de manière secrète. Et bien sûr, les jeunes filles ont toutes des relations sexuelles, mais certaines s'arrêtent à mi-chemin. Elles gardent l'hymen intact pour se dire vierge, pour se définir comme vierge. Donc là, elles concilient entre le tabou et le désir, le tabou religieux, le tabou social qui dit non à la jeune fille. Mais bon, parce qu'il y a un désir fort, elles essaient de le satisfaire de manière partielle, de manière extérieure, donc fellation, sodomie, pour garder l'hymen intact. Mais il y a aussi des jeunes filles qui vont jusqu'au bout, qui ont des rapports complets, par choix, et qui assument ce choix jusqu'au mariage, surtout si ces jeunes filles sont diplômées, surtout si elles ont un capital social. Parce que la virginité, comme je l'ai dit souvent, c'était le capital de la jeune fille marocaine. Si elle le perd, tout est perdu. Et c'est également la capitale de son corps. Si cette capitale est prise, tout le corps est pris. Bon, cela reste vrai pour les couches populaires, rurales principalement. Mais plus on s'élève dans la société, plus l'hymen, virginité devient secondaire, on voit autre chose, les rites tendent à disparaître, on ne voit pas vraiment... Bon, mais cela dit, il reste des pratiques qui montrent qu'il y a des résistances. Par exemple, le fait de se refaire un hymen chez le gynécologue pour dire qu'on est vierge, qu'on n'a jamais eu de rapport complet avant le mariage, le fait d'utiliser des hymens artificiels, la nuit des noces, tout ça montre qu'il y a deux grandes tendances, une tendance libéralisée et une tendance conservatrice. Les deux coexistent, les deux ne sont pas antinomiques. Une jeune fille peut avoir des pratiques libéralisées pendant un certain temps, puis à un moment donné, revenir à des pratiques conservatrices, pour faire bien, pour faire un mariage, pour réussir une vie conjugale, enfin, vous voyez. Donc c'est vraiment à la carte.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous sommes en compagnie d'Abdessamad Dialmi, sociologue et consultant en santé sexuelle et reproductive au Maroc. Alors, on constate à la fois une explosion démographique et un fort taux de chômage dans de nombreux pays de la région, pas seulement le Maroc. Peut-on parler contraception, malgré le poids de la tradition religieuse? Est-ce qu'il y a un planning familial possible aujourd'hui dans la région?
Ah oui, ça c'est depuis les années 1960, le planning familial est là. Il a été légitimé par les fuqaha, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'islam. Ils sont référés justement à ce coït interrompu, licité par le prophète. On peut faire l'amour sans penser à avoir d'enfants. Puis pour les théologiens, une nation forte est meilleure qu'une nation faible. Et si le nombre est un facteur de faiblesse, alors autant éliminer le nombre et réduire les naissances. Et donc ça a été la façon de légitimer une politique publique nationale qui a commencé dès 1966 et qui a donné des résultats excellents. Donc comme je l'ai dit, on est passé de 7 enfants par femme en moyenne en 1960 à 2,2 enfants par femme en 2014. Le progrès est énorme et c'est un programme qui s'est implanté dans les villes, mais également dans les zones rurales. Et cela a montré que la réduction des naissances peut se faire sans qu'il y ait d'urbanisation véritable, sans qu'il y ait d'emploi féminin véritable, et sans qu'il y ait de scolarisation féminine véritable. Ce sont là les trois grandes variables qui conduisent spontanément à ce que les femmes réduisent leur grossesse. Mais dans les zones rurales, les femmes ne sont pas très scolarisées, le taux d'emploi est très faible, et malgré ça, la fécondité a baissé. Et c'est grâce justement à ce programme-là.
Et selon vous, est-ce que l'égalité homme-femme au Maroc et dans la région peut passer par une évolution au sein de la famille, ou alors est-ce nécessaire d'en passer par la loi?
Ben, les deux. C'est-à-dire que la loi régule la famille. On a eu une réforme du code de la famille en 2004 et cette réforme a donné de nouveaux droits aux femmes. Par exemple, le fait de pouvoir demander un divorce juste pour incompatibilité. Ça, c'est important. Le fait que la famille soit soumise à l'autorité des deux conjoints. Ça aussi, c'est important. Le fait aussi de partir au cas où le mari prendrait une deuxième femme. Ça aussi, c'est un acquis. Mais bon, malgré ces apports, malgré ces points positifs, beaucoup de droits n'ont pas été obtenus. Par exemple, l'égalité en matière d'héritage. Par exemple, ne pas considérer le travail domestique comme étant un travail rentable qui participe à l'économie du ménage. Donc, que la femme non plus n'est pas tenue de participer à l'entretien. Donc, tout cela conserve l'autorité du mari. Et donc, bien sûr, l'égalité juridique entre hommes et femmes est encore loin d'être atteinte. Et dans la réalité, et dans la loi, n'est-ce pas? Mais bon, La bataille est là, la bataille a commencé dès les années 1980. Le mouvement féministe n'a pas cessé de se battre. Il a obtenu justement cette réforme du Code de la famille en 2003-2004. Mais bon, cette réforme, d'une part, elle est incomplète, des droits restent à obtenir. D'autre part, elle est mal appliquée, elle est non appliquée. Il y a des résistances, pas seulement au niveau de la population. Les hommes résistent, les femmes résistent, mais même au niveau des juges qui estiment que dans certains cas, la véritable loi, c'est pas le code de la famille, c'est la charia qui est derrière, qui est tapie et qui, pour eux, reste intemporelle. Bon, par exemple, la jeune fille peut se marier sans tuteur matrimonial, ça c'est la loi. Mais beaucoup de notaires refusent d'enregistrer le mariage s'il n'y a pas de tuteur. Donc ils enfreignent la loi parce que la charia nécessite, elle stipule qu'il y ait un tuteur pour que la jeune fille puisse se marier. Donc voilà les problèmes qui restent encore à résoudre, à surmonter, et c'est pas une bataille facile.
Est-ce que pour vous, justement, le fait que religion et politique soient intimement liées dans les pays majoritairement musulmans, c'est le problème pour ne pas pouvoir accéder à l'égalité homme-femme?
Ben oui, c'est un écueil fondamental, fondamental. Mais bon, on peut pas séculariser, on peut pas laïciser, parce que les pouvoirs en place revendiquent la religion comme une base de leur légitimité. Mais bon, cela dit, étant donné que laïciser est une action politiquement impensable, impossible, inconcevable, on essaie de dire l'égalité au nom de la religion, au nom de l'islam. C'est de concilier entre le principe de l'égalité et l'islam. Et alors là, on fait un travail d'ijtihad, un travail d'innovation, un travail d'interprétation nouvelle, féministe, qui, à partir des textes religieux, essaie de dire l'égalité. Parce qu'on dit que bon, ces textes-là ont été révélés et dits à une époque ancienne, à partir du 7e siècle. Maintenant, on est au 21e siècle et les conditions sociales et historiques ont changé. Et du coup, ces textes aussi doivent évoluer pour que la loi ne soit pas en retard par rapport aux faits et par rapport au principe de l'égalité. Mais aussi le fait que ce principe de l'égalité n'est pas encore vraiment bien compris, n'est pas encore vraiment bien assimilé par la population générale. Pour les gens dits ordinaires, du fait que l'on soit différent biologiquement, hommes et femmes ne peuvent pas être égaux, parce que les hommes sont physiquement plus forts, donc ils sont supérieurs. Pour eux, c'est une logique qui est là, qui les empêche de concevoir ce qu'est l'égalité. Il faut donc leur dire non, même si on est différent, on peut être égaux en matière de droit. Et bon, ça reste un combat, d'abord psychologique, c'est-à-dire comment convaincre, comment expliquer, comment persuader les gens de séparer, de dissocier entre différence et inégalité. Parce que pour eux, différence signifie inégalité. Il faut donc leur dire non, la différence peut signifier également égalité. C'est vraiment un pas important qui n'est pas fait. Et du coup, la quasi-totalité des hommes ne sont pas convaincus par ce principe de l'égalité entre hommes et femmes. Pour eux, c'est des pertes de privilèges au pluriel. C'est une trahison du texte sacré qui stipule que l'homme est supérieur, n'est-ce pas? Et du coup, c'est donc une bataille contre les textes. Une bataille contre la mentalité, une bataille contre la loi, et c'est pas facile, c'est pas facile du tout.
Merci Abdessamad Dialmi. Je rappelle que vous êtes sociologue et consultant en santé sexuelle et reproductive au Maroc.
Merci.
Et je renvoie à votre dernier livre, Transition sexuelle entre genre et islamisme, c'est publié chez L'Harmattan. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée chaque semaine par Mathias Golchani. On se retrouve samedi et dimanche prochain à la même heure. Tout de suite, un nouveau journal.